Les voies de service, mercredi 20 mars 2019. C'est le printemps! Je m'excuse si je parle pas trop vite, c'est pour essayer d'avoir de la voix jusqu'à la fin de l'émission, mais ça me fait plaisir d'être là en compagnie de Daniel Lachance.
Bonjour.
Mon nom, c'est Isabelle Falardeau. Et notre collègue Serge Bradet est en train de se faire bronzer sur les plages quelque part.
Pas encore.
Ou peut-être pas, hein, peut-être en train de se faire bronzer sous les néons de l'aéroport. Dis bonjour. Aujourd'hui, je vais un peu déroger à notre habitude dans le sens qu'on essaie de partager le plus de textes possible, mais moi, je suis tombée sur un long texte qui couvrait vraiment plusieurs aspects de la vie des Autochtones dans le Nord. Alors, j'ai décidé de vous partager l'article au complet en plusieurs parties. C'est un article dont le thème principal, c'est la fonte de la route de glace, ou des routes de glace, mais on parle d'une route de glace en particulier pour illustrer le propos. En première partie, je vais me concentrer sur la description de c'est quoi une route de glace et pourquoi on a peur de la perdre. Et puis, l'impact que ça a sur l'alimentation des gens. Et de votre côté, Daniel?
Eh bien, de mon côté, en première partie, je vais vous parler du groupe Arcade Fire, qui participe à la musique d'un film qui va sortir très prochainement. Et je vais vous parler aussi d'un groupe mythique qui fait un genre de retour, je vous dirai c'est qui tantôt.
Ah, alors, je vais encore me coucher moins niaiseuse ce soir, je le sens. Merci. Alors, je commence tout de suite donc, avec « Les routes de glace en péril », c'est le titre de l'article de Christian Noël qui a été publié sur le site ICI Radio-Canada et publié le 18 mars, avant-hier. On nous parle, c'est ça, des Premières Nations qui craignent les conséquences économiques et sociales de la disparition des routes de glace en raison des changements climatiques. Et M. Noël, donc, a visité une communauté qui cherche des solutions à ce problème qui est crucial pour elle. La route de neige et de glace toute blanche serpente à travers un bouquet d'épinettes noires. Le chemin est désert, la pleine lune s'attarde au petit matin, le soleil levant est aveuglant. Les ombres longilignes des arbres sur la route ont un effet hypnotisant. Cette route, on ne la retrouve sur aucune carte parce qu'elle n'existe qu'en hiver. Elle traverse des marécages, des tourbières et des rivières gelées sur des centaines de kilomètres. C'est le seul chemin qui relie la Transcanadienne au nord de Timmins, en Ontario, aux communautés autochtones qui vivent le long de la baie James, dont Moose Factory et Attawapiskat. Un lien vital dont l'existence est menacée en raison des changements climatiques. La camionnette de Peter Wesley est secouée par des bosses de neige et de glace. Il inspecte fièrement la route d'hiver, la décrit avec amour, comme un père décrirait son enfant. C'est que, il y a 10 ans, comme élu au conseil de bande de Moose Cree, il s'est battu pour la construction de la route Wetum, qui porte maintenant son nom. Way pour Wesley, qui est son nom, et Tom pour Bobby Tom, un autre élu. Aujourd'hui directeur des travaux publics, il se bat pour la survie de son œuvre. Les changements climatiques ont des conséquences graves pour la route Wetum. Au début de l'hiver, le temps doux empêche parfois la formation des glaces, ce qui ralentit sa construction. Durant l'hiver, le gel et le dégel endommagent la route. Quand le printemps arrive trop tôt, le chemin devient boueux, dangereux et impraticable. Selon M. Wesley, la saison de la route de glace raccourcit d'année en année et ça aura un effet néfaste pour les gens et les commerces qui en dépendent. Il y a 20 ans, la saison des routes de glace au Canada durait environ 4 mois. Maintenant, elles sont ouvertes en moyenne 2 ou 3 mois et si la tendance se maintient, l'Institut des politiques du Nord estime que 75% du réseau sera impraticable et dangereux d'ici 2040. C'est pas dans
c'est
si longtemps que ça, là.
Ça sent bien,
oui. On va être encore vivants, en tout cas, on se le souhaite, et en santé. À l'endroit où la route de glace traverse la rivière Moose, l'eau jaillit à la surface. Il n'y a rien de dangereux, c'est une inondation contrôlée pour épaissir la glace et permettre le passage de poids lourds. Vêtu d'une combinaison orange, John Mark supervise les travaux. « La route est très achalandée », confie John. « surtout pour le transport de marchandises, qui ne peut se faire que durant l'hiver pour les communautés plus éloignées comme Cachéchouan et Attawapiskat. Dès le début janvier, des convois de camions font la queue ici et attendent l'ouverture de la route. Pour rénover un aqueduc, construire un hôpital ou une école pendant l'été, il faut transporter tout l'équipement, le matériel et l'essence durant les mois d'hiver. Okay. On ne peut pas décider à la dernière minute, là. Je vais faire un agrandissement. Les routes de glace qui s'étendent sur 3000 km en Ontario profitent à 25 000 personnes. Chaque année, elles permettent de transporter 1000 tonnes de matériaux de construction, 2000 tonnes de nourriture et 5 millions de litres d'essence. Vivre à Moose Factory, c'est accepter de vivre au rythme des saisons. La communauté est située sur une île, mais il n'y a pas de pont pour s'y rendre. L'été, la traversée se fait par bateau. À l'automne, quand la glace se forme, et au printemps, durant la rupture des glaces, l'île n'est accessible que par hélicoptère. Donc, évidemment, on ne peut pas transporter des matériaux de construction en grande quantité.
Et ça devient assez dispendieux pour le transport de marchandises.
Exactement.
Aussi.
Alors, quand l'hiver arrive et que la route de glace s'ouvre finalement, la communauté se réveille et s'anime. C'est ce que souligne la chef de la Première Nation Moose Cree, Patricia Farries. On aime le froid, on a besoin du froid. Elle précise aussi que l'hiver, ici, est rempli de possibilités. La route de glace sert de connexion entre nos communautés le long de la baie James. C'est grâce à elle qu'on connecte avec famille et amis. Cette liaison routière temporaire risque de devenir plus courte et plus précaire puisque les températures dans le nord se réchauffent plus rapidement que dans les autres régions du pays. On a ici un tableau avec les températures moyennes de décembre à février. On voit là que, par exemple, entre 1986 et 2005, les températures étaient de moins 14 en moyenne. Pour Attawapiskat, 2020-2039, on prévoit que ce sera moins 10. Et 2040 à 2069, moins 7. Et pour Ottawa, ben, c'est moins 3 en ce moment. Donc, jusqu'en 2005, on prévoit qu'en 2020, ce sera moins 1 et 0 en 2040-2069. Donc, il y a vraiment un moins grand écart, effectivement. Et puis, évidemment, ben, ça a un moins grand impact pour nous dans le sud. Alors, les gens du sud parlent beaucoup des changements climatiques. Mais ici, dans le nord, on en subit déjà les conséquences. Alors, sur une note plus réjouissante un petit peu, Daniel?
Oui, un article que j'ai trouvé sur un site urbania.ca. Arcade Fire reprend Baby Mine pour le Dumbo de Tim Burton.
Tim Burton va faire un Dumbo?
Absolument.
Attendez, moi je me fous d'Arcade Fire, c'est vraiment ça l'information, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment intéressant.
Oui. On en entend parler depuis un bon moment déjà, mais le remake de Dumbo prend finalement l'affiche à la fin du mois.
Mais là, j'étais caché sous une roche.
Faut être à l'écoute un peu. Et c'est le groupe montréalais Arcade Fire qui signe la bande originale de cette nouvelle mouture du classique de Disney. Réalisé par Tim Burton, le nouveau Dumbo met en vedette Eva Green. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Eva Green. Elle a joué dans un James Bond. Je pense que c'est le premier avec Daniel Craig.
Oui.
Casino Royale.
Une jolie dame.
Oui. Colin Farrell, Michael Keaton et Danny DeVito, pour ne nommer que ceux-là. Plus tôt cette semaine, Arcade Fire nous a offert leur reprise de la ballade Baby Mine, pièce écrite pour le film d'animation de 1941. La chanson a marqué les esprits de plusieurs générations puisqu'elle joue à un moment crève-cœur du film. Vous en souvenez sûrement?
Il n'y a pas juste un moment crève-cœur.
Je me souviens vaguement.
Au début, c'est ça quand...
Chanté à l'époque par Betty Noyes, le morceau débute alors que Dumbo visite sa mère emprisonnée et enchaînée. Je ne me souviens pas si c'est au début du film.
Il me semble que c'est au début. Mais
elle chante « Baby mine, don't you cry, baby mine, dry your ears.
Oh. »«
Dry your eyes », pardon, pas « your ears
». Oui, c'est les oreilles de Dumbo qui vous ont confondu.
L'image, ils ont des grandes oreilles, là, mais elles ne sont pas mouillées. « Rest your head close to my heart », en essayant de cajoler son enfant à travers les barreaux de sa cage. La balade continue alors qu'on voit toutes les autres mères bien au chaud avec leurs petits. Et ça, apparemment, ça vous arrache une larme de mer, oui.
Ben oui, c'est clair.
OK, ben, apparemment. Oui. Ben, je vais voir la nouvelle version, peut-être que je vais comprendre un peu mieux pourquoi ça arrache une larme. Dans un communiqué relayé par Pitchfork, Wynne Butler a expliqué que la reprise de la pièce a vraiment été une affaire de famille pour Arcade Fire. « Ma mère joue de la harpe sur le morceau. Mon frère du theremin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un instrument
avec
assez
cordes,
bizarre. Ça. Non, c'est un instrument juste électronique. On passe notre main devant, ça dégage des ondes. » Puis on fait,
j'imaginais une espèce de lutte. Là,
ouais.
Mais non, c'est pas ça du tout.
J'en reparle une bonne journée en plus en détail.
Ouais.
Ma femme chante et s'occupe de la batterie. Notre fils joue même du triangle ainsi que tout le reste de notre famille que représente Arcade Fire. Le rendu moderne est presque aussi doux et aussi rassurant que l'original. Dumbo est un classique bien aimé depuis plusieurs décennies, mais Wynne a lui-même une relation particulière avec le film. Il y avait une scène avec une locomotive dans la version originale où on entendait un instrument, le Sonovox, mon grand-père Alvino Ray avait rendu célèbre dans les années 1930.
Ben
et ça, ça a attiré
donc.
Mon attention. J'allais voir, j'avais jamais entendu ça, Sonovox. Et j'ai compris après ça que c'est un petit peu l'ancêtre du Talkbox, que vous connaissez peut-être pas non plus, mais Sonovox, rapidement, là, c'est quelqu'un qui avait pensé à un truc pour inverser pas le courant, mais le transfert de son, dans le fond, d'un micro. Fait qu'au lieu d'être un micro, ça devenait comme un haut-parleur. Okay?
Ah oui,
il collait le micro sur son cou, et pendant que l'instrument jouait, sa tête, son crâne devenait comme une caisse de résonance. Fait qu'en bougeant ses lèvres, l'instrument qu'il jouait sortait par sa bouche. Donc, il appelait ça Sonovox parce que le son de l'instrument passait par sa tête. Puis lui, il pouvait comme dire des mots. C'est l'instrument qu'il jouait. Le Talkbox qui est arrivé beaucoup plus tard. Vous avez sûrement déjà entendu la chanson de Peter Frampton, « Do You Feel Like We Do? » où on a l'impression que sa guitare chante.
Vous voyez la perplexité dans
mes yeux.
C'est
un peu un principe semblable, mais c'est que là, le son sort de l'amplificateur par un tube en plastique qu'il met dans sa bouche. Et là, il fait juste bouger ses lèvres pour faire un son.
Et en tout cas, il y a des gens qui sont vraiment créatifs.
Quand même, hein? Mais
ouais,
c'est pas utilisé souvent. Donc, cette fois, je regardais le film, je me disais que c'était lui, son grand-père.
Dont on a parlé plus tôt.
Donc, pour lui rendre hommage, le musicien aurait sorti les vieilles guitares de son grand-père pour jouer la nouvelle version de ses pièces iconiques. On peut même retrouver un peu du fameux Sonovox d'Alvino sur Baby Mine. Donc, Dumbo prend l'affiche le 29 mars prochain. La bande sonore originale sera aussi disponible à cette date.
On était tous très attentifs de savoir est-ce qu'il y a un Sonovox qui va être dans cette pièce, dans cette version d'Arcade Fire de Baby Mine. Eh bien, il a fallu attendre les toutes dernières notes de la pièce pour entendre ça.
Mais on l'a reconnu.
Le Baby Your Mine avec une voix un peu robotique, c'était ça. Voilà.
Mais je me plains pas d'Arcade Fire, mais est-ce qu'il s'est chicané avec Danny Elfman, Tim Burton? Ou...
Aucune idée.
Vous reviendrez là-dessus.
On va fouiller ça pour
alors, voilà, mais merci beaucoup. Et donc, ben, ça m'amène à parler d'un sujet complètement différent. Les répercussions qui se font sentir jusque dans le portefeuille des familles. Donc, je parlais plutôt là, de l'importance de la route de glace et de l'impact de son raccourcissement, enfin du raccourcissement de sa saison, de sa durée. Alors, dans la famille, dans la maison de la famille Shimon Small, tout est réglé au quart de tour en cette fin d'après-midi. Entre la fin des classes et le début des entraînements de hockey, déjà, on s'imagine que ces gens-là n'ont pas de vie. Parce que les parents préparent le souper et s'occupent de leurs quatre garçons âgés de 3 à 11 ans. Donc, trois garçons. Je ne sais pas si les quatre jouent au hockey, mais en tout cas, juste un qui joue au hockey.
Ça doit bouger dans cette maison-là.
Alors, de 3 à 11 ans. Mais le principal défi de la semaine, c'est la journée de l'épicerie. Shelley Small doit faire des choix déchirants. Pas facile d'avoir une diète nutritive pour quatre garçons qui sont très actifs. C'est 8 $ pour 4 litres de lait. 13 $ pour une boîte de céréales, sans compter les fruits et légumes qui sont hors de prix. Parce que ça, c'était pas hors de prix, c'était juste vraiment très cher. Donc, c'est Shelley Small qui nous dit ça. Donc, l'hiver, comme plusieurs autres familles de Moose Factory, la route de glace lui permet d'aller faire des provisions à Timmins à 5 heures de route. Et nous, on fait un petit peu plus de route pour aller au Costco, là, pour économiser, mais 5 heures de route...
Mais de la rive sud, venir au centre-ville de Montréal, c'est à peu près ça que ça prend aussi. Hein, mais...
quand même pas exagéré. Alors, puis là, ça fait 10 heures aller-retour, j'imagine, je ne sais pas si elle dort là. Elle fait le plein de viande, de légumes surgelés, de denrées non périssables et de produits ménagers. Ce n'est pas très pratique de faire toute cette route, mais j'économise une fortune. Dans les communautés qui dépendent des routes de glace, le panier d'épicerie peut coûter jusqu'à 2 fois plus cher qu'ailleurs au pays. Une facture qui risque de grimper à mesure que raccourcissent les saisons des routes d'hiver. Et ici, en accompagnement de l'article, pour nous donner une illustration, il y a un tableau du prix des denrées, alors à Moose Factory et à Timmins. Le plus impressionnant, c'est le premier item, les tomates en dés, qui sont 8 $, donc pour 8 boîtes de 796 millilitres à Timmins et c'est 40 $ à...
Oui,
ouais, c'est
ouais,
ça.
On parle de
et mais tous les articles là-dessus là, sont... les bananes, les oignons, c'est 4 fois le prix. Évidemment, c'est moins impressionnant parce que le prix de base n'est pas trop cher, mais à la longue, ça s'additionne. Alors, si les aliments nutritifs deviennent encore moins abordables dans le Nord, l'infirmier diététicien Nick Kilberger de l'hôpital Winnebago de Moose Factory craint que les gens se tournent davantage vers les produits transformés. Et les aliments transformés coûtent moins cher et se conservent plus longtemps. Pour nourrir une grosse famille, c'est plus économique, même si c'est mauvais pour la santé. Ça peut entraîner des problèmes de santé chroniques comme le diabète. Et déjà, les taux de diabète sont de 3 à 5 fois plus élevés chez les peuples des Premières Nations qu'au sein de la population générale. Et ça, c'est l'Association canadienne du diabète qui nous donne cette statistique.
Parce que ces produits-là contiennent plus de sucre
ben
pour
oui,
la conservation,
oui, exactement,
j'imagine.
Exactement, et des glucides simples. Alors, moins de fibres. Devant ce défi, le conseil de bande de Moose Factory a mis sur pied une stratégie pour s'adapter au changement climatique, dont une partie vise la sécurité alimentaire et une nourriture à prix abordable. 2 fois par mois, Anthony Chum organise un marché du fermier au centre communautaire où sont vendus des œufs frais et de la viande. Le conseil de bande achète également à un grossiste pour 1 000 à 2 000 $ de fruits et légumes qu'il revend ensuite au prix coûtant. On élimine ainsi la marge de profit astronomique des épiceries. Ça nous permet d'offrir des produits nutritifs à prix abordable pour toute la communauté. Beaucoup de gens, ici, ont une piètre alimentation faute de choix. Notre marché les aide à améliorer leur diète. À deux pas du centre communautaire, on retrouve Stan Kapechesit devant un terrain vague qui sert actuellement de sentier de motoneige. Le directeur du développement économique de la Première Nation Moose Cree espère transformer cet espace en chantier dès juin pour y construire un centre de culture aquaponique. J'espère qu'on pourra y élever 12 000 kilos de truites et faire pousser de la laitue, des tomates et des concombres pour bien nourrir notre communauté et créer des emplois. Et donc, c'est ce qui termine la section de l'article qui parlait de l'alimentation. Et en deuxième partie, j'ai deux autres sujets là, qui vont... vous allez voir, ça a d'autres impacts, la route de glace. Alors, vous nous avez dit que vous allez nous parler d'un groupe mythique.
Ouais.
J'ai pas réussi à dire, c'était pas Pink Floyd.
Non. C'est un faux groupe qui est devenu un groupe mythique. Vous avez déjà entendu parler de Spinal Tap. J'en ai parlé ici il y a quelques semaines.
Oui, c'est ça, c'est de vous. Je me disais, il me semble que j'en ai entendu parler
oui,
dernièrement.
Oui, donc c'est un article que j'ai trouvé sur le site rollingstone.fr. Spinal Tap, Divine Comédie. Sans les avoir jamais oubliés, on ne les attendait pas vraiment non plus, mais le fait est que le groupe Spinal Tap revient dans la lumière à l'occasion du 35e anniversaire du film réalisé par Rob Reiner, qui signala en 1984 son premier long-métrage. Ce dernier, ainsi que la fine équipe composée de Christopher Guest, Michael McKean et Harry Shearer, se retrouveront au mois d'avril dans le cadre de la 18e édition du Festival du film de Tribeca. Au programme, une projection de This is Spinal Tap et un concert exceptionnel qui, depuis cette annonce, laisse espérer aux fans une reformation pérenne qui n'a été à l'heure de la rédaction de ces lignes ni confirmée ni infirmée.
Pérenne, on veut dire à long terme, c'est
ouais,
ça?
Oui, oui, oui.
Plus que juste temporaire.
Donc, c'est ça, ça serait assez surprenant, mais bon.
Oui, c'est ça, j'étais un peu sceptique, mais...
Déjà au mois de novembre dernier, nos joyeux drilles avaient refait parler d'eux au sujet d'un probable arrangement dans le conflit qui les oppose à Vivendi. Au nom de ses petits camarades, Harry Shearer, le bassiste du groupe, mm-hmm. mais aussi, depuis 1989, la voix de Mr. Burns dans Les Simpsons.
Non.
Ben oui, ça va pas.
Wow, c'est le Edgar Fruitier ouais. anglophone, ça veut dire.
Donc, lui demande depuis deux ans 400 millions de dollars, correspondant selon lui aux royalties non versées par le géant français détenteur des droits d'exploitation de l'œuvre. Mm. C'est quand même un gros montant d'argent.
C'est beaucoup d'argent.
Mais c'est assez surprenant. Une somme astronomique digne d'une scène de ce film élu en 2003, la meilleure pellicule rock de tous les temps par le magazine que vous tenez entre les mains, donc le Rolling Stone magazine. Oui, oui. On peut discuter ad vitam aeternam de ce classement. En revanche, il est incontestable que ce faux documentaire qui met en scène un groupe bidon de hard rock du nom de Spinal Tap, en français, ce serait, voudrait dire, une ponction lombaire, est la toile binaire la plus drôle de toute la stratosphère. Le film suit le groupe dans une tournée nord-américaine destinée à promouvoir son nouvel album intitulé « Smell the Glove ».
Le glove qui a servi à faire le Spinal Tap.
On ne sait pas trop, là. Mais donc,
un autre
l'odeur
examen
du gant.
Physique, oui.
Donc, opus qui tarde à être. On parle de l'album ici. Opus qui tarde à être commercialisé en raison d'une pochette jugée trop sexiste par la maison de disques. On est en 1984. On se demande bien pourquoi. Parce que la pochette représente une femme nue, tenue en laisse à quatre pattes qui renifle un gant tenu par un homme. Et, comme l'indique l'un des membres du groupe, avec un humour très britannique, « Difficile de vendre un disque qui n'est pas sur le marché, mais on va y arriver. » Donc, C'était carrément stupide, ce film-là, d'un bout à l'autre.
C'était vraiment précurseur de ce qu'on appelle les documentaires ou les mockumentaries.
Effectivement, je pense que c'était le premier. Ben, dans le fond, c'était pour se moquer des documentaires sur les groupes.
Mais c'est ça, parce que maintenant, c'est carrément un genre, le documentaire.
Puis dans ce film-là, il y a vraiment tous les clichés. D'ailleurs, on va en voir quelques-uns. C'était vraiment tous les clichés des documentaires de groupes rock. Là. Le reste est à l'avenant, qui accumule d'irrésistibles situations parodiques, non sans rapport avec quelques événements marquants de l'histoire du rock. La malédiction des batteurs qui disparaissent dans des accidents de jardinage explose sur scène ou étouffe dans leur vomi. Et ça, dans le fond, c'est un clin d'œil à le batteur de Led Zeppelin, John Bonham, est décédé comme ça, étouffé dans son vomi. Bon appétit, désolé. Là, mais... Le décor scénique inspiré des monolithes anglais de Stonehenge, qui s'avère finalement trop massif pour être installé, dans le film, dans le fond, le petit quiproquo qui est arrivé, les gars veulent avoir une grosse maquette de Stonehenge qui descend sur la scène pendant qui joue une
pendant
pièce.
Pendant le spectacle, oui.
Et il y a eu une petite erreur de calcul dans la... une erreur d'interprétation. Oui. Finalement, le Stonehenge a à peu près un pied de haut par deux. C'est complètement absurde. L'ahurissant volume sonore des musiciens qui les oblige à posséder des amplis dont le volume pousse jusqu'à 11. Dans le fond, c'est ridicule. Un bouton de volume sur les amplis, c'est toujours de 0 à 10.
Et lui, voulait aller jusqu'à 11 pour
que ça soit plus fort. Donc, c'est plein de clichés.
Ça illustre, c'est pour illustrer, dans le fond, l'excentricité.
Ouais, l'excentricité, puis
les demandes.
Oui,
c'est ça.
Tout simplement, des vedettes de rock. On pourrait continuer ainsi pendant longtemps, tant chaque scène est un monument d'humour admirablement servi par la réalisation volontairement amateur de Rob Reiner. Et par l'interprétation des membres de ce groupe au départ factice, qui composèrent eux-mêmes les titres figurant sur la bande originale. Si le film n'a trouvé son public que lors de sa commercialisation en VHS, 2 ans après sa sortie dans les salles, il a néanmoins traumatisé quelques artistes, et non les moindres. Les membres d'Aerosmith et de Scorpions ont pensé qu'il était spécifiquement dirigé contre eux.
Pour vrai. Les deux, chacun de leur côté, ont pensé que c'était...
Les gars. Et idem pour Ozzy Osbourne, dont la légende dit qu'il a été si choqué qu'il serait resté cloîtré chez lui de 1984 à 1986. Mmh. On exagère peut-être un peu ici. Seul Eddie Van Halen n'a pas sourcillé et a estimé que cela correspondait bien à son quotidien de musicien. Ce qui laisse songeur.
Deuxième partie de cette émission Les Voix de service. Bonjour tout le monde. Toujours Isabelle Falardeau, micro en compagnie de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et donc, dans cette deuxième partie, je vais continuer de vous parler de l'importance de la route de glace dans la vie des communautés du nord de l'Ontario. Plus particulièrement sur, en fait, les aspects positifs pour briser l'isolement et les impacts négatifs de cet isolement qui vont probablement s'accentuer s'il n'y a rien qui est fait pour... contrer les effets de la disparition de la route de glace. Et de votre côté, avez-vous des sujets un peu plus réjouissants?
Ben non.
Non? Bon. Alors, on va terminer.
On va
essayer de se réjouir que le printemps soit arrivé. Puis,
oui, quand même. C'est le printemps aujourd'hui. C'est la pleine lune en plus, la belle journée. Non, je vais vous parler d'un guitariste légendaire qui a quand même lui-même créé un style et qui est décédé week-end dernier. Mm. Et une autre personne décédée, donc...
Donc, c'est la rubrique nécrologique de l'émission.
La deuxième partie.
Merci beaucoup. Alors, En ce jeudi matin, des dizaines de familles font leurs bagages, déposent l'équipement de hockey dans leur camion et prennent la route. Tous se rendent à Timmins pour la Coupe Mushkegawok, un tournoi régional qui permet aux jeunes Cris d'affronter les équipes des communautés voisines. En 2 jours, près de 1000 personnes empruntent la route de glace. C'est génial! On joue contre des cousins ou des amis qu'on ne voit qu'une fois par année, comme mon amie Kiki, la gardienne de but qui vient d'Attawapiskat. Et on peut faire des parties pyjama! C'est Alana, qui est joueuse de hockey de Moose Factory, qui nous dit ça. Riley Small, qui est aussi un joueur de hockey de cette communauté, lui dit « Je m'amuse beaucoup. J'ai de nouveaux amis. On jase sur la patinoire. Quand on affronte de nouveaux adversaires, on apprend beaucoup et on joue plus fort pour gagner. » Pour bien saisir la joie qui anime ces jeunes, il faut comprendre qu'ils se sentent parfois isolés. Les crissements de souliers, les bruits de ballons qui rebondissent et les cris d'encouragement résonnent dans la tanière du Loup, le gymnase du centre jeunesse de Moose Factory. Dans les gradins, Ethan Hukima fait une pause pour attacher ses souliers. Il aime le basketball, mais il aime encore plus l'hiver. Avec la route de glace, je peux sortir de la ville, visiter des amis le long de la côte. Je sens que l'hiver, j'ai 3 mois de liberté. Et quand la route de glace ferme, c'est le retour à l'isolement. Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est que pour nous, les jeunes qui avons grandi dans le Sud, on attendait la fin de l'année scolaire et l'été avec impatience, mais ces jeunes-là, ils attendent l'hiver, ils attendent qu'il fasse assez froid pour pouvoir se déplacer et briser leur isolement.
Leur vie sociale est plus animée pendant l'hiver.
Voilà, exactement. Sans centre commercial, sans salle de cinéma, c'est l'ennui total et on se sent parfois coincé ici. Ajoute son ami Kachena. Aurora Delaney vit aussi cet isolement, elle qui a étudié pendant 1 an dans un collège de Barrie, près de Toronto, avant de revenir à Moose Factory à la suite d'une grève des professeurs. C'est une petite ville, à peine 2500 habitants. On fait rapidement le tour. On se sent isolé, comme si on n'avait pas de liberté. Et ça peut être très dur, ça peut jouer sur notre santé mentale, nous dit Aurora Delaney. Et donc, dans la dernière partie de cet article, je vais vous parler justement de cette santé mentale. Daniel, donc première rubrique nécrologique oui. de cette émission.
Bon, c'est un article que j'ai trouvé encore dans rollingstone.fr, mais j'aurais pu le trouver un peu partout parce que tous les médias en ont parlé au début de la semaine. Dick Dale, guitariste pionnier et précurseur du surf rock avec notamment Let's Go Trippin' et Mr. Lou, j'ai jamais su comment le prononcer. Là. Je pense que c'est la bonne fin. Mr. Lou a influencé toute une génération de musiciens.
Ça, c'est la tune qu'on connaît, en tout cas que moi je connais.
Oui, la plus connue. Une légende s'en est allée. La nouvelle a d'abord été rapportée par nos confrères informés chez California Rocker. Dick Dale est mort ce dimanche 17 mars 2019 à l'âge de 81 ans. Quand même, je pense qu'il a eu une belle vie. Son bassiste Tom Ball a ensuite confirmé sa mort au Guardian. Aucune cause de décès n'a pour le moment été révélée. Même s'il est répandu que le guitariste a souffert de nombreux problèmes de santé au cours de ces 10 dernières années. En 2010, Dale a dit qu'il luttait contre le cancer. Plus tard, en 2015, le musicien a fait une interview choc en déclarant « Je ne peux pas arrêter de tourner parce que je vais mourir en raison des dépenses médicales découlant du traitement du cancer, du diabète et de l'insuffisance rénale. »
C'est incroyable, hein? Ouais. Être atteint de toutes ces affections physiques-là et devoir travailler parce que sinon...
Parce que lui, il dit ici, amasser 3 000 $ par mois pour payer les fournitures médicales dont j'ai besoin pour rester en vie. Et cela s'ajoute à l'assurance que je paie, a continué Dale dans le fameux entretien. Donc, effectivement, on parle de traitements qui sont assez dispendieux ici. En tant que précurseur du genre surf rock popularisé dans les années 60 dans le comté d'Orange en Californie, Dale a inspiré des musiciens comme Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Ry Cooder et bien sûr les Beach Boys. Les Beach Boys, je le vois très bien. Pour les autres, je vois un peu mal le lien, mais bon.
Le lien est un peu plus ténu.
Apparemment, à l'époque, ils ont quand même été influencés. Mais je pense que si on se ramène dans les années 60, la musique instrumentale jouée principalement par de la guitare, c'était très nouveau. Guitare électrique, c'était quand même un instrument assez nouveau à l'époque.
C'est pas étonnant qu'il a inspiré plusieurs groupes, même si leur style a pris des directions différentes.
Donc lui, il a vraiment amené un nouveau style. Donc, le Mr. Lou de Dale a également figuré dans le générique d'ouverture de Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
Et c'est de là que je le connais, oui.
Voilà, c'est là qu'on...
Mais comme je le disais, hors d'onde, ça a été aussi popularisé dans le superbe jeu Rayman et les Lapins Crétins, qui était un des premiers jeux disponibles sur la Wii.
Et voilà. Moi, ça, je ne connais pas. Il fallait que je fasse un tour pour aller voir ça. Né Richard ou Richard, hein, on ne sait trop, jamais trop. Mettons, on va dire Richard. Né Richard Monsour à Boston en 1937, Dale a d'abord joué du ukulélé, puis de la guitare quand il était enfant. Son père, d'origine libanaise, donc ça devait être Monsour, j'imagine, a enseigné à son fils les gammes qui allaient devenir plus tard l'épine dorsale du surf music. En 1954, après s'être installé dans le sud de la Californie alors qu'il était au lycée, Dale a développé une obsession pour le surf. Il a finalement réussi à combiner ses deux passions en faisant équipe avec les Deltones. Ensemble, ils ont composé des titres comme « Let's Go Trippin' » en 1961, considéré comme la toute première chanson surf rock. L'année suivante est arrivée Mr. Lou, la reprise par Dale d'une chanson orientale méditerranéenne.
Ah, donc, fait que c'était une mélodie, reprise,
oui,
cette chanson-là.
Il a pris une mélodie qui était déjà existante. Les Beach Boys reprendront « Let's Go Trippin' » 2 ans plus tard sur leur album « Surfin' USA » en 1963. À l'époque, Dick Dale avait été recruté par la société Fender, qui fabrique des guitares et des amplificateurs, pour tester ses instruments et ses amplis et aider à leur développement. Grâce à son association avec Dale, la Fender Stratocaster est devenue la guitare incontournable du surf rock avec la Stratocaster dorée signée Dale, la bien nommée The Beast. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé ici à un moment donné des guitares qui portaient un nom, comme la Lucille.
Oui, il y avait même certaines personnes qui avaient émis l'hypothèse que c'était les femmes qui donnaient des noms à leurs instruments.
Oui,
on avait démontré que c'était un mythe.
Depuis que j'ai dit ça, je me suis fait planter de tous les côtés, parce que même lui, sa guitare avait un nom, ça s'appelait The Beast. Donc, voilà pour Dick Dale. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai pas vraiment connu Dick Dale puis toute sa musique à cette époque-là. Mais moi, la musique que j'associe au surf, c'est surtout la musique des Ventures, qui était toute la musique instrumentale, jouée seulement par de la guitare et un peu de clavier. Mais je pense que les Ventures ont été très influencés par Dick Dale au départ, parce que si on écoutait les deux, il y a beaucoup de ressemblances.
C'est le printemps et ça donne envie déjà de sortir pour aller surfer avec cette musique de Dick Dale. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, oui.
Moi, j'ai jamais surfé, mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenté, effectivement. Peut-être j'attendrai qu'il fasse un tout petit peu plus chaud, par contre.
Oh, Isabelle!
mais pendant que nous, on attend avec impatience qu'il fasse chaud, dans les régions du nord de l'Ontario, on espère que le froid va durer le plus longtemps possible pour pouvoir continuer de se promener. Alors, j'en parlais juste avant dans le très court sujet que j'ai partagé avec vous sur l'isolement. Donc, c'est ça, il y a Aurora Delaney qui disait qu'elle se sentait isolée et que ça pouvait jouer sur la santé mentale. Il y a un rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord intitulé « Point de rupture » qui indique que le taux de suicide est de 5 à 6 fois plus important chez les jeunes autochtones, que chez les jeunes non-autochtones. Donc, 5 à 6 fois plus important. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, notamment les effets des pensionnats autochtones, mais les changements climatiques qui menacent les routes de glace risquent d'accentuer le sentiment d'isolement, ce qui peut accroître la dépression et l'anxiété chez les jeunes autochtones. Et même une étude publiée en 2014 dans la revue Regional Environmental Change qui le mentionnait. De nombreuses communautés autochtones du nord de l'Ontario ont vécu des vagues de suicides chez des adolescents au cours des dernières années. On en a même entendu parler jusqu'ici dans le sud. Ce fut le cas de Moose Factory. Mais depuis la construction du centre jeunesse en 2009, la situation semble s'être améliorée. Caleb Turner est l'un des responsables des programmes du centre jeunesse. Il estime que la route de glace joue un rôle déterminant pour briser l'isolement des jeunes. « Nous sommes super occupés de janvier à mars avec des cercles de danse, des cérémonies traditionnelles et des ateliers sur l'emploi et la sexualité. » À Moose Factory, l'inquiétude liée au changement climatique traverse les générations. L'ambiance est tranquille au centre des aînés de Moose Factory. Quelques personnes sont assises côte à côte, en silence. Pas besoin de parler pour se sentir ensemble. Mais quand le sujet des changements climatiques est abordé, la discussion s'anime. « Les saisons sont déréglées », lance Cecil Sutherland. « La rivière est moins profonde, les oiseaux migratoires s'installent plus à l'ouest, la chasse à l'oie traditionnelle en souffre et on perd nos racines. » Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on vit pas, nous, mais le fait que les oiseaux vont
migrer ailleurs.
Oui, ils vont migrer ailleurs, vont se rendre moins loin dans le sud, ben, ça a un impact parce que ça déplace les zones de chasse. Plus tôt, dans son bureau, la chef Patricia Ferris tenait un discours semblable. « Il y a des compagnies qui ont profité des changements climatiques, mais nous, dans le Nord, on en paie directement le prix. C'est pour cette raison qu'elle est pour une taxe sur le carbone. Elle reconnaît que des membres de sa communauté sont contre l'idée, puisque la mesure ferait augmenter le prix de l'essence déjà très élevé dans le Nord, mais pour elle, l'enjeu dépasse les considérations économiques. Il faut penser aux prochaines générations. » Il faut que nos gouvernements aussi pensent aux générations futures. Pourquoi sommes-nous incapables de planifier à long terme? Sommes-nous stupides? Ça n'a aucun sens, selon Patricia Ferris. Je rappelle que Mme Ferris est chef de la Première Nation Moose Cree. Pardon. En ce qui concerne les routes d'hiver en péril, la chef Ferris ressent l'urgence d'agir. Une des solutions proposées est de construire une route permanente. Mais il faudrait assécher des centaines de kilomètres de marécages, construire des ponts, la facture pourrait dépasser le milliard de dollars. La chef Ferris ne croit pas que les gouvernements provincial et fédéral soient prêts à dépenser un tel montant. Le conseil régional de Mushkegowuk a d'ailleurs entrepris une étude de faisabilité pour ce projet et il est à la recherche de financement. Mais pour l'instant, les communautés autochtones de la baie James continuent de s'adapter tant bien que mal aux conséquences des changements climatiques. Alors, on retourne avec un peu de sujet musical, mais malheureusement encore dans la mort.
Ouais, c'est un article que j'avais pas trop... j'ai trouvé ça dans lefigaro.fr. En refusant de défendre Michael Jackson, sa sœur Janet suscite la colère de sa famille. Apparemment, avec les événements qui sont arrivés dernièrement suite à la présentation du film Leaving Neverland, il y a eu beaucoup de...
Ça fait beaucoup de bruit.
Beaucoup de controverses.
C'est pas drôle, parce que c'est vrai que dans une famille, On a le droit de ne pas être d'accord avec un des membres, mais c'est toujours touché parce que ça peut nous mettre à dos le reste de la famille. Et puis, ouais. C'est
Sujet
difficile de
très
rester
délicat.
Neutre.
Donc, la sœur du roi de la pop s'attire les foudres de sa famille en gardant le silence face aux nouvelles accusations de pédophilie auxquelles son défunt frère Michael est de nouveau confronté. D'après une source proche de la famille, la chanteuse ne voudrait pas impacter sa carrière personnelle. On peut la comprendre un peu
un
aussi.
Peu, oui.
Il ne manquait plus que cela. Alors que Leaving Neverland accable Michael Jackson de graves accusations de pédophile, voilà que Janet, sa sœur, refuse de prendre sa défense. D'après The Sun, une source proche de la famille a révélé les détails d'une conversation que le clan du roi de la pop aurait eue. La semaine passée, les membres de la famille Jackson ont longuement discuté à propos du documentaire et de l'impact que cela pourrait avoir sur l'héritage culturel du chanteur, raconte la source au tabloïd britannique. Tout le monde voulait que Janet publie un communiqué condamnant le documentaire, car c'est l'artiste la plus connue de la famille après Michael. Je pense que tous les autres membres de la famille ont publié des communiqués pour dire que...
Ah oui, donc elle est vraiment...
Pour un peu discréditer les témoins dans le film.
Elle est la seule.
Si Janet Jackson ne veut pas prendre la parole pour ce proche anonyme de la famille, anonyme, ça doit pas être dur à identifier, non, pas si nombreux. La raison est évidente. Ces derniers jours, plusieurs de ses proches lui ont fait part de leur envie à ce qu'elle prenne la parole et qu'elle défende l'innocence de Michael Jackson. Mais la carrière de Janet a toujours été faite en distinction avec sa famille et elle continuera de le faire. Sa famille est persuadée que son silence en dit long, mais elle n'a tout simplement pas envie d'aller sur ce terrain-là. Finalement, elle ne sait pas ce qui s'est passé et ne pense pas qu'il soit de son ressort de juger quoi que ce soit. Diffusé sur HBO début mars, Leaving Neverland a été un vrai séisme médiatique et dégrade plus que jamais l'image de Michael Jackson. Si certains fans persistent à clamer haut et fort son innocence et tentent d'honorer sa mémoire, le résultat est sans appel. En début de semaine, le classement Billboard révélait que les ventes d'albums et de singles de l'artiste, y compris pendant sa période Jackson 5, ont baissé de 4 % et les chiffres de streaming audio et vidéo ont baissé de 5 %. Toujours difficile de dire, par exemple, si c'est vraiment en rapport avec
Est-ce que,
ça.
Oui, ben, puis il faudrait comparer avec le reste des ventes d'autres artistes.
Aussi.
Puis,
mais bon,
mais
c'est
bon,
facile
mais c'est
de tirer ces chiffres-là
avoir,
puis accentuer
puis on peut comprendre
le
aussi les membres de sa famille si ça affecte les ventes des albums des Jackson 5.
Oui, mais c'est leur héritage aussi.
Voilà, exactement.
À cela s'est ajouté un déni médiatique de la part de certaines radios qui ont pris la décision de ne plus diffuser les morceaux du roi de la pop sur leurs ondes. C'est le cas de trois stations québécoises. Côté People, le rappeur canadien Drake, en concert ce soir à Paris, ça c'était, attendez un peu, j'ai utilisé la date tantôt, le 13 mars, bon. Donc en concert, ouais, vient de supprimer Don't Matter to Me de sa setlist. À cela s'ajoute le retrait de l'un des épisodes. On a parlé tantôt des Simpsons.
Bon, oui, okay. Oui.
Bon,
ah, donc
un des Spinal
épisodes...
Tap qui faisait la voix de
Monsieur
Burns. Donc, le retrait d'un des épisodes des Simpsons diffusé en 1991 où l'interprète de Beat It prêtait sa voix à un personnage.
Ils ont carrément retiré
ouais.
le
Donc, ça, ouais. ça commence à
non,
prendre
ça
une
commence
ampleur.
À avoir un gros impact.
Et là, on s'entend que c'est seulement parce qu'un documentaire a été diffusé. On ne parle pas d'une nouvelle enquête, on
ne
parle pas de
ça.
Nouveaux faits. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais bon. Donc, et ça n'avait pas été encore diffusé en France, parce que là, dans l'article ici, on dit « Leaving Neverland sera diffusé en France le jeudi 21 mars à 21h sur M6. »
Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout uni à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. La place
De leur dernier album qui s'intitule À l'aube d'un printemps, et on parlait du printemps tôt dans cette pièce, Mes aïeux et les oies sauvages. Aujourd'hui, on rappelle, c'est le printemps, le premier jour du printemps, printemps qui s'est fait attendre et dont on est fort content qu'il soit enfin au rendez-vous.
Oui, avec on expose. D'ailleurs, ça donne bien parce qu'on a vraiment une température printanière qui nous est promise. On ne l'a pas encore senti aujourd'hui, mais c'est censé faire chaud aujourd'hui. Alors. Tant mieux, mais cette chaleur affecte, on l'a dit tout à l'heure, la migration des oies sauvages. Mais j'ai une petite nouvelle plus positive pour vous. Les succès académiques des Autochtones, donc les Mi'kmaqs, font figure de chef de file au Canada. C'est un article qui a été publié le 14 mars 2019 sur le site de Radio-Canada, ici Nouvelle-Écosse, et qui a été rédigé tout simplement avec les informations de la presse canadienne. Il y a 20 ans, seulement 30 % des élèves Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse terminaient l'école secondaire. 30 % je le répète.
C'est pas
aujourd'hui,
beaucoup,
hein? 90 % d'entre eux obtiendront leur diplôme. C'est la meilleure performance parmi les réserves au Canada et plus du double du taux national de 36 % pour les élèves des Premières Nations vivant dans les réserves. Donc, ils se démarquent vraiment, vraiment du reste du Canada. Évidemment, on peut se douter qu'ils ne vivent pas les problèmes là, d'isolement dont on a parlé plus tôt, que vivent certaines communautés, mais n'empêche, pour les Autochtones de la Nouvelle-Écosse et pour le gouvernement fédéral, les raisons de ce succès sont claires, la prise en charge par les Mi'kmaqs de leur éducation. Il y a une vingtaine d'années, les Mi'kmaqs de la Nouvelle-Écosse obtenaient l'autonomie de la gestion de leurs écoles élémentaires et secondaires par l'entremise de Mi'kmaq Kinamatnewe, ou MK, un conseil d'éducation Mi'kmaq. Aucune des Premières Nations Mi'kmaq de la province ne possédait sa propre école à la fin des années 90. Les enfants prenaient l'autobus pour aller à l'école hors de leur communauté. L'organisme Mi'kmaq Kinamatnewe aide les écoles de communautés locales à mettre en œuvre des programmes d'immersion linguistique et d'autres programmes adaptés à la culture. C'était un rêve, selon Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni au Cap-Breton et directeur de MK. Un rêve que les Mi'kmaqs puissent gérer leur propre éducation et puissent atteindre des niveaux que les Canadiens ne croyaient pas possibles. Non seulement le taux de diplomation des élèves Mi'kmaqs s'est-il accru considérablement, mais l'écart avec le système scolaire provincial a presque été comblé. Pour l'année scolaire 2016-2017, Kinamatnewe, je savais que je finirais par avoir de l'accent, rapportait un taux d'obtention du diplôme donc de 89,6%. Alors que celui de la Nouvelle-Écosse s'élevait à 92,3. Donc, c'est quand même effectivement très près. Jeudi dernier, 12 chefs des Premières Nations Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et la ministre fédérale des Relations couronnes autochtones, Caroline Bennett, ont signé le renouvellement d'une entente de financement sur l'éducation des Mi'kmaq qui s'élève à 600 millions de dollars pour les 10 prochaines années. L'entente sur l'éducation des Mi'kmaq démontre clairement que l'autodétermination mène à de meilleurs résultats, selon la ministre Bennett. Les précédentes ententes avec le gouvernement fédéral ne duraient que 5 ans. D'après les récentes données du gouvernement fédéral, il y a 3000 élèves de la maternelle à la 12e année dans les réserves de la Nouvelle-Écosse et plus de 600 étudiants dans les établissements postsecondaires de la province. Les Autochtones représentent 2,7% des quelques 960 000 habitants de la Nouvelle-Écosse. Et c'est ce qui met fin à cette émission des Voix de service. On vous revient la semaine prochaine, toujours en tandem, Daniel Lachance et moi-même, Isabelle Falardeau, puisque Serge Bradet sera encore en vacances. Et on était accompagnés, et on le sera, on l'espère, la semaine prochaine aussi, de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci beaucoup. Bonne journée,
bonne
tout le monde.
Bon printemps.